Ingrat et obsolète, griffonnant en étrusque, acheteur de drogue pas encore synthétisée, trafiquant de la Troisième Guerre mondiale, exciseur de sensibilité télépathique, ostéopathe du cerveau, agents spéciaux enquêtant sur des infractions dénoncées par des joueurs d'échecs paranoïdes, huissier délivrant des exploits fragmentaires rédigés en sténographie et béphrénique, et stigmatisant d'innommables mutilations de l'esprit, fonctionnaire d'état policier inconstitutionnel.
Mais où est-ce que je suis encore tombé ? Bonjour à tous, cinéphiles prêts à tout, mais alors vraiment prêts à tout, bienvenue dans ce nouveau numéro du cinéma avec un grand A qui promet d'être compliqué. Yann Ritter pour vous servir. Prêt ? Alors c'est parti.
Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio.
À toi de choisir.
Je t'exploserai moi-même la cervelle.
Votre bouche est trop près de votre rondelle.
Pauvre crétin.
Mais tu vas faire quoi, hein ?
Vous mourrez avant d'avoir pu recharger.
Portrait d'acteurs et de réalisateurs.
Actu des séries.
Après séance.
Musique au cinéma.
Top et flop.
Petit secret entre cinéphiles.
Le cinéma, avec un grand A, vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinemaavecungranda.com.
Bon, autant vous dire que pour notre film du jour, il nous faudra à vous comme à moi une bonne dose de recul, et de LSD accessoirement, pour piger un broc de ce micmac psychédélique. Le festin nu étant ce qu'on peut appeler un gros, un très gros trip multifacette et un objet filmique inattendu. The Naked Lunch est à l'origine un roman de William Burroughs qu'il écrivit entre 54 et 57 à Tanger sous l'influence de diverses substances hallucinogènes et sous coke, ce qui est en soi un exploit. Le résultat est une œuvre dispersée, obscène et informe, mais saluée par la critique et le public dès sa publication en France. Car aux États-Unis, le livre fut interdit pour 10 ans tant il choquait les mœurs par son évocation crue de l'homosexualité.
Je vous ai vu dans le coin, mais j'avais aucune idée que vous étiez homo.
Homo.
Je vous ai vu arriver avec ces trois jeunes pédérastes. Quelle entrée ! Vous formiez une famille étroitement unie.
Homo. Oui, c'est une malédiction familiale depuis toujours. Tous les lits ont eu des mœurs perverses. Ah, je ne pourrai jamais oublier l'horreur qui paralysa la lymphe dans mes glandes. Quand ce mot infamant cingla mon esprit hébété, j'étais un homosexuel. Je songeais à ces travestis minaudants, ces pseudo-femelles peinturlurées que j'avais vues à Baltimore dans un club. Faisais-je vraiment partie moi aussi de cette sous-humanité ? Dans un brouillard total, j'irais au hasard, comme un homme blessé jusqu'à l'âme. Je n'avais qu'une envie, me détruire. Mais une vieille folle pleine de sagesse. Bobo, nous l'appelions. M'expliqua que j'avais le devoir de vivre et de porter ma croix bien haut, avec fierté.
Par son manque de cohérence et d'une forme classique, le roman fut très vite classé dans la catégorie « inadaptable ». Mais un homme, qui présentait Burroughs comme une de ses inspirations premières, tenta le pari. Cet homme, c'est David Cronenberg, qui à l'époque avait déjà réalisé une dizaine de films, dont le culte La Mouche et le dérangeant Vidéodrome entre autres, qui est fait de lui un cinéaste reconnu autant par le public que par la critique. Mais l'adaptation du roman de Burroughs est un défi de taille pour le Canadien, qui décide d'ajouter aux éléments qu'il prend au roman une évocation, en filigrane, de la biographie de son auteur. Ainsi que William Bill Lee assassine sa femme en jouant à Guillaume Tell de la même manière que Burroughs. De même, l'interzone où Lee pense se trouver dans son délire est une évocation de l'International Zone de Tanger où ce dernier écrivit le roman.
L'orgasme ne joue aucun rôle dans la vie du drogué. L'ennui qui indique immanquablement une tension non soulagée ne l'effleure jamais. Il peut contempler sa chaussure pendant 8 heures d'horloge et ne se remet en activité que lorsque le sablier de la cam s'est vidé.
Alors ce film, on commence par quoi ? Ah oui. William Lee est un ancien junkie reconverti dans l'extermination de cafards. Jusque-là, vous allez me dire, tout va bien. Mais sa femme lui vole son produit pour se l'injecter. Bien décidé à garder son boulot et à aider sa femme, il décide d'aller à la rencontre d'un médecin spécialisé dans ce genre de cas.
Cette poudre, c'est de la pyréthrine ?
Oui.
Nous recevons beaucoup de gens de votre corporation. Cet ami, vous devez l'aider à lâcher la poudre jaune. Ça le tuerait.
Mais comment je le mets en renonce?
En renonce?
De quelle façon je dois m'y prendre pour qu'il arrête?
Ah. Mélanger avec ceci. Augmenter graduellement le pourcentage de noir sans le dire à votre ami. En un rien de temps, il n'aura plus besoin de nourrir ce vice.
Vous suivez? Bon, alors on revient en arrière. Billy est arrêté par deux policiers des stupes qui le soupçonnent de trafiquer de la poudre. Ils le mettent en face d'un cafard géant, qui lui révèle que sa femme est une espionne et qui plus est non humaine. Rien que ça. Et qu'il faut absolument la tuer. Une fois fait, il devra se rendre dans un port franc de la côte nord-africaine appelé l'Interzone, où il devra faire son rapport et enquêter sur différents personnages locaux tout en se faisant passer pour homosexuel. Vous ne me croyez pas? Et pourtant...
Et maintenant, vous vous en doutez, j'ai reçu des instructions pour vous du centre de contrôle. Ah, c'est au sujet de la petite personne.
À quoi?
La petite personne. Votre petite personne. Votre femme.
Explique.
Votre femme n'est pas vraiment votre femme. C'est une agente de l'Interzone Incorporated. Vous devez la tuer, liquider John Lee. Ça doit être fait très vite, cette semaine. J'ajoute qu'il faut faire ce travail avec élégance.
Peter Weller, qui refusa de reprendre pour la troisième fois son rôle fétiche de Robocop pour jouer dans le film de Cronenberg, livre une performance étonnante. Il ralentit sa diction et son jeu pour entrer dans ce personnage constamment surpris et désabusé par son propre délire, ne comprenant pas toujours où il se trouve et ce qu'il fait. Parfois touchant, d'autres fois franchement déroutant, Weller intègre parfaitement les sentiments de ce personnage si atypique.
Il semble que j'ai enregistré mes impressions sur ce mal et son délire, mais je n'ai guère souvenir d'avoir rédigé les notes que l'on a publiées en langue anglaise sous le titre Naked Lunch. Je n'en ai compris la signification que très récemment, après ma guérison. Il a exactement le sens de ces termes. Le festanus, cet instant pétrifié et glacé, où chacun peut voir ce qui est piqué au bout de chaque fourchette.
Festanus est un film singulier, et pluriel à la fois. Un trip artistique, organique, sexuel, de drogue bien sûr, et même littéraire. Jamais un film n'aura aussi bien compris la démarche de l'écriture et de la pensée littéraire. Un film où le scénario n'est pas la pierre angulaire du concept, tant il est dense, barré et complexe, mais fait partie d'un tout, entre le visuel, la performance des acteurs et les plaidoyers en sous-texte. L'art rejoint ici le cinéma, tant la mise en scène de Cronenberg est soignée et l'interprétation des comédiens est millimétrée. Weller surprend à chaque scène tant son aura de Robocop est présente dans les esprits. Il prouve qu'il est capable de l'exact opposé et montre à tous ceux qui l'ignoraient encore son talent.
Qu'est-ce que c'est que ces blagues? Vous dites des conneries? Naturellement, j'ai dérapé en deux moments, mais on a tous des pannes dans l'Interzone. Vous en auriez aussi.
Certains?
Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tête d'oreiller?
Ce sont les restes de ma dernière machine à écrire. M'a causé pas mal de problèmes.
Je peux jeter un coup d'œil?
La tienne. Minute, on va là.
Là où Burroughs démarre dès les premières lignes dans le trip de son personnage, Cronenberg, lui, décide de démarrer en présentant ses personnages. William Lee extermine des cafards, a des amis intellectuels au camé et des ennuis avec sa femme et au boulot. La situation posée, Lee peut peu à peu sombrer.
L'odeur de roussi se rapproche. Je les devine dans l'ombre en train de combiner leurs coups, de mettre en place leur mouchard de charme et baver de joie en repérant ma cuillère et le compte-gouttes que j'ai jeté à la station de Washington Square au moment où j'ai sauté le tourniquet pour dévaler la ferraille de deux étages et attraper l'express du centre.
Extrait de Linky Pete de The Naked Lunch. Cronenberg est à l'apogée de son talent et de son trip organique même existent, son ultime film de genre n'atteindra pas ce niveau. Il pose ici comme une sorte de manifeste du cinéma organique, tant les créatures, les délires et l'univers sont cohérents et subtils. Rien ne nous est épargné durant le visionnage du festin nu. Le trip va jusqu'au bout, jusqu'à la dernière scène. L'adaptation du livre est très libre, mais tout est là. Burroughs et Cronenberg sont en adéquation totale. Personne d'autre que le cinéaste canadien n'aurait pu mieux interpréter les méandres tortueux de l'esprit du romancier. Une réussite totale, en somme. Mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Bon, il est grand temps de reprendre nos esprits. C'est tout pour moi, c'était Yann Ritter pour le cinéma avec un grand A. Je tiens à remercier Anto d'État Critique pour avoir prêté sa voix durant cette émission. À la prochaine pour une nouvelle critique, plus normale. Enfin, j'espère.
Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio.
À toi de choisir.
Je t'exploserai moi-même la cervelle.
Votre bouche est trop près de votre ondelle.
Pauvre crétin.
Mais tu vas faire quoi, hein?
Vous mourrez avant d'avoir pu recharger.
Portrait d'acteurs et de réalisateurs.
Actu des séries.
Après séance.
Musique au cinéma.
Top et flop.
Petit secret entre cinéphiles.
Le cinéma, avec un grand A, vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinemaavecungrandA.com.